Le thème, c'est trouver une famille. Trouver une maison d'amour, trouver de l'aide, trouver l'écoute, trouver la paix qui rassure. Pourquoi ? De plus en plus, des personnes sont inquiètes, sont en difficulté. Pas toutes d'argent, mais ça pourrait arriver qu'il y en ait beaucoup plus bientôt. Et en difficulté de nourriture, en difficulté d'emploi, en difficulté morale et spirituelle, en difficulté sexuelle. Il y a des gens qui ont toutes sortes de travers au niveau de la sexualité, au niveau affectif. Ça devient de plus en plus compliqué dans les visites. Tout ça, il faut que ces gens-là trouvent l'hôtellerie. Est-ce que vous vous rappelez le texte dans lequel le bon samaritain s'arrête pour quelqu'un qui est à terre? Est-ce que vous le trouvez? Moi, je vous le laisse chercher. On va le lire. Vous savez déjà dans quel évangile ça se trouve? Non?
Matthieu?
Non. Luc. Le récit de cette parabole est très important pour aujourd'hui. Et sachez bien que celui qui s'arrête, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Torah complètement, qui ne va pas prier au temple, puisque les Samaritains étaient interdits d'accès, par leur autorité, mais aussi par ceux de Jérusalem, ils ne pouvaient pas y aller. C'est comme si nous, on voulait aller prier dans une mosquée, c'est impossible. Alors, ce qu'il y a, il est clair que il arrive, il voit quelqu'un en situation de mort, et il est passé un prêtre, il est passé un adjoint du prêtre, un lévite, qui n'ont rien fait, qui allait de Jérusalem à Jéricho, et puis, voilà, il le laisse mourant, et puis c'est cet homme-là qui est le moins apte, entre guillemets, mais qui a du cœur, qui est sensible au prochain, c'est celui-là qui se fait le prochain de cet homme. Jésus dit, qui est mon prochain? Chaque fois que je m'approche de quelqu'un, je me fais le prochain. Et bien sûr, il lui met de l'huile et du vin sur ses plaies. Le vin, c'est un vin nouveau, un petit peu comme le vinaigre, et ça purifie, ça nettoie. Et puis ensuite de l'huile pour apaiser. Peut-être des bandes hein, ou un tissu, mais il la met sur sa bourrique et le conduit à l'hôtellerie à Jéricho.
C'est Luc 10, 30.
Luc
10, 30. 30.
Alors si quelqu'un veut lire le texte, parce que il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la fonction essentielle d'une église, bien sûr, c'est de faire connaître la parole de Dieu. Mais vous ne la faites pas connaître comme ça. C'est pas si simple que ça. Je débite, je suis croyant. Si tu es croyant, je prierai pour toi si tu es croyant. C'est de la blague. Si Jésus avait fait ça, il restait dans le ciel. Parce que personne ne conforme. Il faut donc faire attention aux êtres humains. Il faut être à l'écoute. Il faut avoir de la compassion, être à l'écoute des personnes. Et les considérer, quelle que soit leur situation. Prenons ce texte-là, si vous voulez bien.
Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait sur le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Allez vite. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même.
Voilà. Donc, c'est extrêmement important de méditer ce texte, parce que la situation de notre société n'est pas bonne. Et il y a beaucoup de gens qui sont, même s'ils ont l'air, c'est pas l'air qui fait la chanson, l'apparence c'est rien du tout. Apprenez à regarder au-delà des apparences. Et vous, quand vous avez exercé votre regard à voir ça, vous ne vous fiez pas aux apparences. Derrière, il y a beaucoup de gens dans le désastre. Et ils le cachent. C'est pas bien de montrer qu'on est faible. C'est pas bien de montrer qu'on souffre, qu'on a peur, qu'on est angoissé, qu'on va se casser la figure en finance ou se casser la figure en amour. C'est pas bien. C'est pas bien de montrer qu'on est inapte à s'adapter à la société, à briller. C'est pas bien de ne pas pouvoir lire, écrire. Quand j'avais fait donc l'école normale, et puis que je fais la philosophie, je suis au service militaire comme objecteur de conscience. Je refusais de tirer sur quelqu'un. Mais j'étais donc dans le corps de santé, mais on était mélangé aux autres. Et j'avais remarqué que dans le tableau des corvées, c'était toujours les mêmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Où qu'on soit, quand on aime le Seigneur, on doit regarder ce qui se passe. On doit analyser et examiner. Et je me suis dit, je vais aller une demi-heure avant, ou 20 minutes avant, devant le grand tableau où il y a toutes les corvées. Dans une caserne, il y en a du boulot. Hein. Et alors là, il y avait les gars qui avaient fait l'UNIF, qui avaient fait l'école, et tout ça. Ils passaient en vitesse, ils savaient, ils notaient. Hein. Et puis il y avait tous ceux qui restaient plantés là, qui étaient là comme ça. Bon. Ils ne savaient pas lire ce qu'il a mis pour eux. Et j'ai remarqué, quand on va à l'armée, c'est pas comme quand on va à l'école. À l'école, on a déjà écrémé ceux qui se sont cassés la figure en maternelle, en primaire, et tout ça, ou qu'on fait un an ou deux de secondaire. C'est écrémé. C'est mauvais de dire ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce qu'il y a, quand on arrive plus tard, il y en a, ils ne se rendent pas compte que derrière eux, il y en a des tas qui sont couchés par terre. Et qui vont pas avoir facile de s'en sortir. Il y en a qui sont courageux et qui vont remonter la pente d'une autre manière, mais ils vont y arriver. L'école les a pas aidés, mais ils vont y arriver. Ça c'est clair. Et donc j'étais là, puis j'ai fait ça chaque fois. J'ai constaté qu'il y avait une multitude de miliciens de 17, 18, 19 ans qui étaient tout de suite au service. Hein. Mais qui avaient déjà travaillé dans les usines, dans les charbonnages, sur les lignes à haute tension. C'est tous ceux-là qui font tourner la société. C'est pas les gratte-papiers. Et alors, c'est pas les gratte-papiers qui font tourner la société, contrairement à ce qu'on pense. Et ils étaient là, et quand on avait une petite solde, ils envoyaient encore à la femme, s'ils étaient mariés avec un enfant, et on voyait qu'ils avaient de l'amour hein, pour leur femme, ou aux parents. Et pratiquement... Je me suis dit, mais c'est là que je dois travailler. C'est là que je dois être. Et comme je ne savais pas qu'il y avait autre chose que l'Église catholique, c'est là que je dois être prêtre. Donc j'ai choisi d'être prêtre ouvrier. Je sortais avec eux. J'allais en ville avec eux. J'allais jouer aux cartes dans leur chambre. Je voulais les connaître. Me mettre à leur niveau. Oublier les études que j'avais faites. Et chez les Flamands aussi. Je parlais bien flamand à cette époque-là. Et ils étaient tout contents de voir un Wallon qui allait avec eux. Et j'étais bien accueilli, vous savez. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai réfléchi ces temps-ci, ça fait 5 mois qu'il y a un garçon chez nous qui ne sait ni lire ni écrire. Et c'est le cas, c'est ceux-là que j'ai vus à l'armée. C'est ceux-là. Et je vais vous dire franchement, j'ai été dans des familles où les ouvriers travaillaient très bien. Sur les machines. Ils travaillaient très bien, ils faisaient bien leur boulot. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme aptitude pour l'école, les amis? Alors, je vous dis que ces gens font tourner la société. Alors, quand on a appris, on a des études, qu'on a un certain standing, on les voit tous, on voit ceux-là au match de football qui mettent des chapeaux, la trompette, le tambour, qui boivent la Stella ou les trucs, on se dit, mais non, c'est faux. C'est ceux-là qu'il faut aller voir. Les hommes politiques l'ont compris. Ils leur payent des chambres, ils tapent dans le dos et ils votent pour eux. Et où Jésus-Christ a-t-il été ? Péreux. Quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas des frigos, nous ne sommes pas sans miséricorde, nous ne sommes pas sans considération pour notre prochain. Il faut faire attention, c'est des règles absolues, absolues, pour vivre en Christ. Alors, les personnes peuvent trouver auprès des chrétiens de l'aide, de l'amour, de l'écoute, et trouver, être rassurées. Pas forcément la foi, c'est peut-être 20 ans après, peut-être jamais, peut-être 2 heures après. Nous ne maîtrisons pas la venue du Saint-Esprit chez quelqu'un. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'Église, les chrétiens doivent être une maison d'amour pour les autres. Il n'y a rien à faire. C'est notre tâche. Aujourd'hui, beaucoup vivent en agonisant moralement. Spirituellement, tous les jours de leur vie, des personnes ne savent plus où elles en sont. Elles vont voir les médiums, elles téléphonent, elles font l'horoscope, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Pas du mal, pas du mal. Ce sont les gens qui sont sur le chemin, qui sont tombés à terre. Et il faut être un ami fidèle de ceux qui souffrent. Il faut être un ami sûr pour eux. Quoi qu'il nous en coûte, quand on est chrétien. Quoi qu'il nous en coûte, il faut partager leur fardeau et il faut avancer pour qu'un jour ils soient en Christ, qu'ils aient le goût de la vie éternelle et de la vie sur terre. Un clochard qui est au bord d'un magasin ou d'une banque mérite qu'on le regarde dans les yeux, pas qu'on évite ses yeux. Si on ne peut rien faire pour lui parce qu'on n'a rien de trop dans la poche, mais au moins qu'on lui dise bonjour. Qu'on lui dise quelque chose de gentil. Et puis, bon, à la fin d'après, si on a quelque chose, oui. Et un réfugié sans papier. J'observais hier, en visite à Mont-Saint-Martin, j'observais entre Aubange, à la frontière de l'ancienne route, et l'autoroute, il y a un bois. Et c'est là-dedans que se trouvent les Érythréens, se trouvent d'autres, les réfugiés afghans et tout ça, cachés. Et ils vont sur le parking, là où s'arrêtent les camions, et ils essayent de monter dans un camion pendant que les chauffeurs sont distraits, sont partis acheter un burger, ou à pied à une pompe au Luxembourg acheter des cigarettes et de l'alcool, des chopes. Et donc, quand ils reviennent, ben, y en a qui sont fourrés dans les camions, c'est clair, hein? Ou alors, ils donnent quelque chose aux camionneurs. Avec. Mais ce qu'il y a, c'est dans ce bois-là. J'ai vu ce bois-là. C'est là qu'une amie de Véronique et de Bénédicte, avec tout un comité, Vincent, je pense, y a été aussi, planté des tentes, qu'ils aient un abri. Et il y a des gens qui donnent de la nourriture. Il y a un stock, quelque part, à Thieu ou Messancy. Puis, ils apportent régulièrement là. On ne peut pas tout mettre là, parce qu'il y en a toujours là-dedans, dans la bande, qui sont plus forts que les autres, et qui ne vont pas faire... Ils vont pas être justes. Ils vont pas être justes. Surtout quand il y a des islamistes, là, des durs, qui n'ont jamais compris que l'amour du prochain, c'était la première base de la foi. On ne peut pas leur en vouloir, puisqu'ils n'ont pas appris, mais ils sont très durs avec des autres. Surtout s'il y a des chrétiens tout près d'eux, là, dans le bois, sous les tentes. Donc, clairement, ce comité qui s'est créé, là, dans ce bois-là, pour ces gens-là, qui sont là, il y en a tout le temps, hein. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Comment ils le savent qu'il y a un bois là? Je regardais ce bois, je dis, mais... C'est comme ça sur le chemin de Jéricho. Le Samaritain l'a vu, les autres ne l'ont pas vu. On voit ce qu'on veut bien voir. Et si on a décidé de ne pas voir certaines choses, on ne les voyera jamais. Le Samaritain les a vus. Donc voilà, il faut faire attention. Et je me rappellerai un jour, toujours ici, il y avait un Camerounais, pas grand, qui venait au culte. Je parlais vite, il était fort nerveux. Et il avait un commerce de vêtements là-bas. Et puis, il commandait des médicaments en Pologne, etc. Il en revendait. À mon avis, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Mais enfin, peu importe. Un jour, pendant la nuit, on l'attaque. Et on lui tire 2 balles. Alors, la balle est rentrée là, elle est ressortie là. Il a perdu un œil. Il est toujours vivant. Il est resté 6 mois dans le coma. Et quand il est sorti du coma, il y avait un missionnaire anglais au Cameroun qui lui a donné une Bible. Alors, cet Eric, qui était, à mon avis, un phénomène dans son genre pour la magouille, ben, s'est mis à lire la Bible. Et vous croyez qu'il est foutu? Les balles qui ont traversé sa tête. Il est toujours vivant. Il est en Allemagne. Donc Dieu a trouvé dans le cœur de ce pasteur, pour cet homme, le bon médicament sur le bord du chemin. Le bon médicament, c'était la parole de Dieu. C'était le moment le plus désastreux pour cet homme. Alors, n'oublions jamais ça. Qui a vécu ici, il y en avait plein à la maison, il y en avait plein, il y avait des caravanes et tout ça. Avec un autre afghan. Je me rappelle, j'aimerais bien de le revoir un jour, je ne peux pas oublier les gens que j'ai vus, moi. Ici, alors, ce qui s'est passé, un jour il dit, mais j'y comprends rien ce qui se passe ici dans cette maison. Et donc il n'était pas encore vraiment converti, j'y comprends rien, j'ai jamais vu ça. Tout le monde vient ici, il mange, il dort et tout ça. Et tout tourne rond, qu'il dit. Tout tourne rond. Mais ça tourne rond ici. On a la paix, on est bien. On a envie d'y rester toute notre vie, il me dit. Oh, s'il te plaît, il faudra un jour que tu pars parce qu'il y en a des autres qui arrivent. Il faut laisser la place. Il ne voulait pas partir. J'ai dû le pousser un peu dehors et il est parti en Allemagne. Alors, de toute façon, j'avais la commune hein, sur le dos pour ne pas continuer. Mais il fallait bien que je fasse comprendre, s'il était là de 6 mois, 2 ans, 3 ans, certains étaient plus que ça, il fallait bien qu'à un moment donné, il se rende compte qu'il n'était pas le nombril du monde, il y en avait d'autres. Le problème, c'est que même quand quelqu'un, comme le bonhomme au bord du chemin, là que le Samaritain ramasse, et le mène à l'hôtellerie, son cœur doit changer. On voit le corps blessé, abîmé par les brigands, mais son âme est blessée, son âme est détraquée, elle n'est pas en ordre. Et donc, dans l'hôtellerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin du corps et de l'âme. Jésus est venu pour le corps et l'âme. Hein? Le fondateur de l'armée du salut, c'était ça. Hein? Soupe, savon, salut. La devise de l'armée du salut, soupe, savon, salut. En anglais peut-être, hein, mais c'était ça. Et il a été en Inde, à l'époque où les Anglais étaient encore les dominateurs, je ne vais pas dire des gentils. Hein. Les Anglais n'étaient pas des gentils. Hein. C'est eux les premiers qui ont inventé les camps de concentration. Alors, ce qui se passe, c'est que on demande un jour à Gandhi, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu chrétien? Ben, j'ai jamais vu un chrétien qui fait ce que le Christ lui a demandé. Il dit. Comme ça, un journaliste, hein? Ça a fait le tour des États-Unis, de l'Angleterre, ce truc-là. J'ai jamais vu un chrétien qui appliquait ce que le Christ lui demandait. Et puis il se reprend, il dit, si, William Bove, le fondateur de l'armée du salut. Ouf! Que l'on puisse dire ça de vous, chers amis, c'est clair, clair, comme de l'eau de roche, que quelqu'un qui n'est pas chrétien puisse dire ça de vous. On n'a jamais vu ça, c'est pas possible. Mais si c'est possible, avec Jésus c'est possible. Le Seigneur ne demande pas d'être très glorieux, mais il nous demande d'être exceptionnel. Pas très glorieux, mais exceptionnel. Alors, si chacun de nous a donné sa vie au Seigneur, prenons Romains 14. L'exception. Le côté exceptionnel du chrétien, c'est toujours dans les petites choses tous les jours. C'est pour ça qu'il n'est pas en politique, il n'est pas dans les grandes finances, il ne pourra pas être en photo dans les journaux à droite et gauche. Il faut se méfier, hein. À partir du moment où on vous met en photo et tout ça, on commence à vous régaler. Le moi, c'est un piège, hein. Romains 14. Je pense que Jésus est né à une époque où il n'y avait pas tous ces moyens de mass média, c'est volontaire. Il aurait pu naître maintenant. Romains 14, verset 7. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alors après, c'est mis clairement, et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ne devons-nous tous pas comparaître devant le tribunal de Dieu? Il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, c'est Dieu qui parle, tout genou pliera devant moi. Toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi que chacun de nous rendre compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Ce sont des versets extrêmement importants, les amis. Bon, on ne peut pas éviter les conflits. Hein. Moi, j'en ai un avec une personne, c'est une de mes sœurs pour le moment. Mais c'est monumental. Monumental. Chaque fois qu'elle arrive, elle m'agresse. Mais au bulldozer. Alors, ça, c'est différent. À un moment donné, je ne suis pas maso. Mais ce qu'il y a, je vais prier que ça change. Je vais prier pour que ça change. Je ne peux pas maudire. Et puis après, on verra. Dieu est tout puissant. Donc, quand on a donné sa vie à Jésus, toute notre vie est donnée sans retour et sans regret, sans partage, à Jésus qui est vivant. Jésus est vivant. Le problème de la vie spirituelle, c'est de savoir si nous percevons, quand nous prions, nous lisons la Bible, si le Christ Jésus est devant moi et me parle. C'est ça le point, le nœud névralgique. Si je sais, quand je lis la Bible, quand je lis qu'il est devant moi, que je m'adresse à lui, qu'il me voit et il m'écoute, et il faut pouvoir lui demander... Mais Seigneur, que penses-tu de moi? Ça, c'est le point névralgique. Quand on s'est donné sans regret, sans retour, il faut en arriver là. Si nous admettons que notre vie lui appartient, donc on est en sa présence. On n'est pas à 25 km, on n'est pas dans le brouillard, le flou artistique. Ok? Alors, Jésus opère des miracles. Jésus veut faire son vouloir en nous. C'est ça que Paul dit dans Philippiens. Dieu opère en moi son vouloir et son faire, selon son bon plaisir. Prenons Philippiens. La docilité à Dieu n'est pas surfaite. Ce n'est pas une source d'orgueil. On n'est pas meilleur que les autres parce qu'on vit ça. C'est justement parce qu'on n'est pas meilleur qu'on cherche à se laisser travailler par le Seigneur, son vouloir et son faire. Voilà. C'est dans le chapitre 2 de Philippiens, mais les lettres sont tellement petites que j'ai du mal à les trouver. Je n'arrive pas à le trouver. Et c'est petit. Il faudra. De toute façon, j'ai commandé une dizaine de douzaine de grosses bibles à gros caractères, comme j'en avais là, les grosses lettres. Mais celui qui en a déjà une, il ne faut pas m'en redemander une. C'est clair. Je vais garder en réserve pour vraiment des personnes qui n'en ont pas. Enfin, moi, de toute façon, je suis collé au mur pour en prendre une aussi.
Non, c'est le verset 4 que vous voulez lire, non?
Chapitre 2. C'est quand dans Philippiens, Paul dit « Dieu fait en moi son vouloir et son faire ». Mais c'est une autre traduction ici. Je ne l'ai pas dans la traduction seconde ici. Hein. Donc je ne sais pas vous le dire. Peut-être que c'est à cause de ça que je ne le trouve pas. Puisque les phrases sont parfois changées. Alors, Jésus opère un miracle chez le Samaritain. Jésus opère chez cet homme qui n'a que des bribes de la révélation. Il a la Genèse et l'Exode. Il n'a pas le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ah si, il a le Deutéronome. Et puis, pour un bar, il n'a rien d'autre. Il a trois livres, le Samaritain. Et dans cela, il peut déjà savoir, dans le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. À une autre place, ton prochain comme toi-même. Donc, il y a des personnes qui ont peu et qui en font quelque chose de beau. Il y a des gens qui ont beaucoup, qui ont reçu beaucoup, ils en font presque rien. C'est tout de même un peu fort, mais c'est comme ça. Donc, le miracle, c'est que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme, avec un tout petit peu, un verset, une petite page de la Bible, un grand miracle pour sa vie éternelle, pour sa vie sur terre, changer tout son comportement. Là, donc, je veux dire que la maison de Dieu, c'est une maison, notre vie, c'est une maison modeste, c'est une maison humble. La maison de Dieu, c'est notre vie, c'est une maison modeste et humble. Aussi une maison familiale. C'est une maison où on partage l'amour avec les autres. Et même avec les ennemis. Quand c'est possible. Quand c'est possible. La maison de Dieu, c'est une chaumière. C'est une petite maison sans gloire. Sans apparence extérieure qui vont attirer l'attention. Ça, j'ai vu en Bulgarie, chez des chrétiens en Bulgarie. Et au Bénin. Si Jésus fut sans gloire, et s'il fut pauvre, et s'il s'est approché, eh bien, pensez bien qu'il s'approchera toujours. C'est son attitude. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il s'approchera toujours de l'homme. C'est dans la nature, dans la personne même de Jésus-Christ. Donc, le chrétien suit son maître. Vous vous rappelez dans Matthieu, à un moment donné, que Jésus va chez le percepteur des impôts, qui s'appelle Lévi. Et il y a des pêcheurs, là, il y a des gens de toutes les sortes, ça y est, c'est un petit peu les gens pas à côté par les religieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec eux. Et puis, Lévi, il va changer de vie. Et Jésus va lui changer son prénom, c'est Matthieu. C'est Matthieu qui va écrire l'évangile de Matthieu. C'était un tordu des affaires, qui était toujours en mauvaise compagnie. Alors, Jésus est venu chez eux. Il s'approche de l'homme, il a ses plans, que nous ne connaissons pas. Quand nous sommes chrétiens, nous allons vers quelqu'un, Dieu a ses plans. Moi, je ne connais pas. Je dois faire pour que Dieu puisse faire son plan. S'approcher de l'autre. Que Jésus puisse s'approcher de l'autre. Je suis une main que Dieu veut qui aille vers l'autre. Pas un coup de poing. Pas un dos tourné. Pas un regard de mépris ou d'indifférence. Donc, nous sommes des petites chaumières. Nous sommes des petits hommes, des petites femmes. Et nous avons une mission qui est noble, tout compte fait. Parce que Jésus s'approche des autres, mais vas-y, cette personne-là a besoin de toi, vas-y. Cette personne-là t'a téléphoné, écoute-la. Cette personne t'a écrit une lettre, réponds-lui. Cette personne-là ne te dit jamais rien, mais tu la vois tout le temps. Quand vas-tu faire le pas pour lui parler? Si dans la conscience Jésus me le dit, c'est ça qui est arrivé au Samaritain. Dans sa conscience, Dieu lui a dit. Et ce n'était pas le super phénix de la foi juive. Alors,
c'était le verset 13.
2, 13 alors.
Oui.
C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Quand j'avais la grosse Bible là, que j'ai laissée au cimetière, tout près de mamie, eh bien, je le trouvais direct, hein, c'était un réflexe, cette Bible. Mais c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. évidemment, il faut faire une connexion avec d'autres versets, parfois pour mieux voir clair. Éphésiens 2:8, juste avant Philippiens. Alors, la connexion, elle m'apparaît évidente. Mais ce qu'il y a, combien de fois dans ma vie, pourtant, j'ai dit, pardon Seigneur, je ne me suis pas arrêté tout près de cette personne-là. J'étais trop occupé, j'avais toujours des bons prétextes. Et parfois, on ne revoit pas cette personne. Ça m'est arrivé comme ça, quand j'avais l'entreprise et que j'étais tout près de 3 clients potentiels, je faisais le devis. Et dans l'auto, ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu n'auras pas le travail là, tu ne les reverras plus. Tu as vu leurs problèmes, tu ne leur as pas parlé de moi. Au deuxième, si tu continues dans ce travail-là, je t'arrêterai, tu iras 6 mois à l'hôpital. Au troisième, tu n'auras pas encore non plus le travail. Et l'entreprise continuera sans toi, elle n'a pas besoin de toi. Ne te soucie pas pour les chômeurs, pour les gens qui ne savent pas travailler, il y en a qui rentreront encore dans l'entreprise. Ce n'est plus ta place. Occupe-toi des personnes. Je rentre, et là, dans la pelouse arrière, il y avait un jardin, ma femme travaille, et elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit la même chose. Écoutez, à 60 km de distance, sans téléphone portable, parce que c'est depuis le Covid que j'ai le smartphone. Alors, c'est quoi ? Le vouloir et le faire se manifeste. 2 jours après, un ancien réfugié, un géant, un Africain, il arrive de Maastricht où il vivait, plus grand que Jimmy, et plus large. Il vient au bus, il arrive pour un quart d'heure pour me dire la même chose. Il retourne. 2 semaines après, un ancien prêtre, je ne sais plus son prénom, il vient de là-haut, de Carré, en Bretagne, au bord de la mer, il y a un centre évangélique où il travaille, et il vient pour me dire la même chose. Et moi, je résistais. Je le vois encore dans la cour derrière qui me dit, je t'ai averti, tu as encore des belles années devant toi, tu dois servir le Seigneur. Il m'a dit, il ne m'a pas dit, tu peux. Vous savez ce que j'ai pensé? Quel emmerdeur. Mais, les minutes qui ont suivi et la nuit qui a suivi. Chers amis, si le Christ n'est pas un emmerdeur pour vous, il y a un problème. Le Christ veut toujours que vous avanciez. Pour lui. Ne l'oubliez jamais. Alors, Éphésiens 2, verset 8. Dans ce monde de misère, il faut tout de même bien qu'il y ait des lumières qui brillent. Eh bien, Jésus l'a dit, vous serez des lumières. Vous serez le sel du monde. Si le sel s'abattit, avec quoi salera-t-on la terre? Mais on n'est pas si nombreux que ça, un peu partout. Oui, beaucoup ont le nom de Jésus dans la bouche. Mais c'est plus pour... Je veux guérir, je veux réussir en affaires, je veux... Mais c'est pas ça que Jésus est venu faire. Son royaume, c'est pas ça. Alors, le vrai royaume, c'est quoi? Éphésiens 2:8, c'est par grâce, donc un cadeau immérité, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de vos actions, de vos œuvres, que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres, donc d'engagement, d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les en complissions. Voilà, ben avec ça, faut bien se mettre à la place de Paul, hein. Saul de Tarse qui a été retourné, hein. Retourné. Pourquoi on ne serait pas retourné aussi, hein? Pourquoi on ne serait pas retourné, les amis? C'est pas normal qu'on refuse d'être retourné par le Seigneur. Jésus nous aime, mais il ne nous laisse pas le confort spirituel de l'autosuggestion et de la présomption personnelle. C'est difficile. Le chemin de l'humilité, le chemin à genoux est difficile. Et ça, les chrétiens ont une immense richesse quand ils l'ont compris. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 8, deuxième aux Corinthiens, chapitre 8, ça c'est vraiment Paul quand même, c'est le summum, ce verset, parce qu'il montre qu'il a été enrichi, quoi. Vous savez comment, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il se fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Plus nous prions, plus nous lisons la Bible, plus nous nous considérons comme pauvres. Nous faisons l'expérience de notre, nous expérimentons notre pauvreté. Nous expérimentons le besoin de la grâce. Nous expérimentons le besoin de lui appartenir, d'être dans sa main et de le servir. Et qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, oui, par notre pauvreté, on peut aller enrichir quelqu'un d'autre. Par notre pauvreté, on peut aller enrichir quelqu'un d'autre, comme Jésus l'a fait lui-même. Notre intérieur peut être richissime, plein de la gloire de Jésus-Christ. Notre intérieur peut être plein de la gloire de Christ. Et qu'à l'extérieur, on ne le voit pas trop. Il n'y a que ceux qui ont soif qui le voient. Alors, il y a une belle image dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Mais ça, c'est l'art de Dieu. Il ne veut pas qu'on s'expose, qu'on fasse du striptease spirituel. Il y a une décence. Et on apparaît riche dans notre cœur pour Christ que si Dieu le montre à travers notre paroi de terre, notre existence. 2 Corinthiens 4. Donc, je vais commencer au verset 6. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir. 2 Corinthiens 4, verset 6. A fait briller dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Donc si on regarde bien ce verset, y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. C'est où? Dans notre cœur. Donc, c'est pas forcément perceptible par tout le monde. Plus on est pauvre, plus ce phénomène spirituel est grand. Plus on est humble, plus ce phénomène spirituel est grand. Retenez-le bien, c'est la richesse de la vie chrétienne, ça, la vie spirituelle. Et alors, ce trésor du resplendissement de la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de sa grâce, ce trésor qui est en moi, quand je me retire dans la chambre, je suis dans la nature tout seul, que j'apprécie, que j'adore, je loue, je magnifie, alors, regardez, quand je sors, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'on est dans un monde de ténèbres, et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous le portons dans un vase de terre. Verset 7. Pas de cristal, de baccarat. C'est un vase de terre pour que la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Notre propre capacité et notre pauvreté n'apporteront rien aux autres. Mais la richesse que nous portons dans notre cœur apportera ce qu'ils ont besoin. Ça va? C'est ça qu'il faut bien comprendre dans notre vie. Et c'est pour ça que nous sommes un vase de terre, mais dedans, nous sommes porteurs de la gloire. Hein, regardez le verset avant. Que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous priez, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez la conviction que Jésus est devant toi? Vous, devant toi. C'est ce verset-là. Là, à ce moment-là, c'est pas seulement psychologique, c'est pas une autosuggestion, il se passera des choses entre vous et le Christ où il va vous montrer qu'il est là. À chacun, à sa manière. Et je ne déballe pas ma lessive devant vous. Ce qui se passe entre le Seigneur et moi, c'est ça qui m'enrichit. Et ce qui se passe, et qui se passera demain et après-demain entre le Seigneur et vous, c'est ça qui fera votre richesse. C'est votre trésor caché, c'est votre richesse à vous. Mais, il y a quelque chose qui passe à travers les parois du vase, c'est-à-dire de l'être humain pauvre et sauvé, pécheur sauvé par grâce. Donc, être au sein des autres, de vrais frères qui ont la foi, de vraies sœurs qui ont vraiment un amour de Dieu débordant, oui, c'est gai, c'est possible, c'est même réjouissant, mais la majorité des rencontres se font avec des gens couché comme sur le bord du chemin de Jéricho. La plupart, c'est cette situation-là. Et il faut avoir conscience que l'écoute que j'apporte à quelqu'un, conscience que l'amour, l'attention, pas un amour forcément très manifesté, mais parfois discret, ça dépend le caractère de la personne en face. Parfois des personnes on serre la main, d'autres on prend dans les bras, et d'autres simplement on les regarde dans les yeux, on dit au revoir, et c'est la même chose, c'est le même résultat, ça dépend de la personne, comment elle a été éduquée. Hein? On porte à autrui un égard qu'il n'a pas, alors il ressent un amour pour lui-même qu'il n'a pas souvent ressenti. Un jour quelqu'un m'envoie un message, mamie était décédée. L'enterrement n'était pas encore fait. Et le lundi, je fais mon message à 18h. L'enterrement était mardi. Et je fais le message à 18h le lundi, puis le mercredi. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. C'est incroyable ce que tu nous aimes pour arriver à faire le message alors que tu as le décès de ta mère. J'étais étonné moi-même, puis j'ai dit, mais elle a vu quelque chose que je ne voyais pas moi-même. J'aurais pas besoin de voir. Ça m'a touché. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que sur le chemin de Jéricho, il y en a beaucoup qui sont à terre. Je peux pas. Soyons habités de la lumière de Christ. Vous savez, le prénom Christophe, en grec, Christ, Phoros, c'est au bord de la mer, c'est cette tour-là, avec la lampe, là. Avant, c'était du feu, hein, on montait du bois. Vous savez, le phare d'Alexandrie, il était tellement énorme. Il était à 50 km ou 40 km de la côte, sur une île. Et il y avait une route dedans, comme dans les parkings là, qui montent là, dans les villes. Les chars montaient avec les chevaux, montaient le bois au-dessus. Tellement, ils faisaient du feu au-dessus pour que le phare brille dans la Méditerranée. C'est une presqu'île, hein, c'est peut-être pas une île, mais toujours est-il, ils avaient créé un accès des plus rapides et des plus efficaces pour amener du bois au fur et à mesure. Il en fallait, hein, la nuit. Donc ils en montaient la journée déjà. Alors, c'est dommage que les guerres et tout ça ont tout pillé, quoi, parce que c'est ça. C'était...
C'est un tremblement de terre qui
l'a... Ah oui. Boum. Un tremblement de terre, oui. Nous avons besoin d'un phare. Les autres ont besoin d'un phare. Vous êtes Christophoros. Vous êtes le phare de Christ.
Vous avez des catholiques qui ont Saint-Christophe. Le patron des voyageurs,
ils disent. Oui. Mais dans l'église, il y a Jean-Christophe. Mais ce qu'il y a... on est tous des Christophe, tout compte fait. C'est un prénom très beau. C'est celui qui apporte la lumière de Christ. Et pourtant, il ne court pas partout, le phare. Il reste à sa place. Il émet à distance. Sachez bien que même si vous ne pouvez pas marcher, vous n'êtes pas en bonne santé, ou vous seriez paralysé sur le lit, si vous priez, vous aimez Christ, vous parlez avec lui, la lumière va loin. Le message de Christ va loin. Ne l'oubliez jamais ça. Ce n'est pas celui qui court le plus qui fait le plus d'effets spirituels. Attention au piège de la chair. Notre mission, c'est une mission de bonne relation avec les autres, de bonne écoute, de bon service, mais c'est une mission de phare aussi. Je ne cours plus. Je reste à ma place et je brille. Comment que je brille si je ne cours plus? Mais je ne vais pas chez lui. Oh, il faudrait que j'aille là, il faudrait que j'aille là, etc. J'ai du temps, je vais y aller. Et si le Seigneur, le Saint-Esprit vous dit, reste là et prie. Qu'est-ce qui va faire être le plus fort? Le message du Seigneur ou le tempérament ou l'angoisse parfois? C'est pas toujours forcément le sens du devoir et tout ça. C'est pas forcément toujours le tempérament. Alors, notre mission de vie active est une mission très sérieuse et qui doit être dirigée par le Saint-Esprit, on le voit bien. C'est, on a le goût de vivre, on a le goût de bonnes relations, on a le goût de la bonne famille chrétienne sur la terre. Mais ce qu'il y a, le Maître est là. Il est au-delà de nos goûts, de tout ce que nous pouvons. Et il a un éclat dans notre cœur, il a une autorité, il a une prétention sur nous. Il a une prétention sur nous. C'est pas nous qui avons une prétention sur Jésus-Christ. Nous sommes l'instrument agréé par Dieu. À partir du moment où nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous avons reçu Christ dans notre vie et nous avons aimé sa parole. Plus que nous-mêmes, nous sommes agréés par Dieu. Je t'aime, Paul. La grâce du salut est marquée sur moi pour la vie. Et ensuite, je continue à lui parler, je continue à lire la parole et à chercher sa volonté. Je suis agréable à Dieu. Deuxième, agréable. Et celui-là, le deuxième, c'est tous les jours qu'il faut qu'il le mette. Parce qu'il y a des jours où nous sommes désagréables à Dieu. Un beau père, ça arrive. Il faudra bien être lamentable et le reconnaître de temps en temps. Nous sommes parfois désagréables. Et ce deuxième cachet, on n'a pas. Mais le premier cachet reste. Le premier cachet qui nous a scellés à Christ et qui nous a donné le Saint-Esprit est là. Alors c'est pour ça que Paul dit dans Timothée, si nous sommes infidèles, si nous ne vivons pas toujours dans la foi, nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Lui il est fidèle. Préparons-nous dans le secret de notre cœur à une vie très forte dans cette période de l'humanité qui est très compliquée et qui va se compliquer. Préparons-nous dans la prière comme le phare. Préparons-nous dans l'adoration et sachons intercéder pour les personnes. Nous attendons toujours une grâce inespérée sur les hommes. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. On ne connaît pas assez les gens. On ne connaît pas assez leur famille, ce qui se passe derrière les murs. Il faut toujours attendre des grâces inespérées, c'est-à-dire des choses que je n'ai pas vues et qui vont se faire. Il faut demander à Dieu des grâces inespérées, des grâces que moi je ne suis pas capable de savoir lesquelles qu'ils doivent recevoir. Mais Dieu est riche et il me voit, moi pauvre, lui demander de faire plus que je ne vois. C'est pourquoi l'image du Samaritain, hein, pensez bien à l'image du Samaritain, il s'en va, il laisse l'homme ou la femme dans l'hôtellerie et il s'en va son chemin. Il y a des grâces inespérées dans l'hôtellerie que lui n'est pas capable de donner. Et donc, nous avons un apprentissage à faire, ce que les grâces inespérées que Dieu accorde à des hommes passent aussi par d'autres. À un moment donné, c'est fini pour nous. C'est pour d'autres. C'est pour le chemin de Dieu, pour cette personne. Et la grâce inespérée, la grâce de Jésus est généreuse et miséricordieuse. Elle est longue et elle est fidèle. Elle vient du ciel. Elle instruira cette personne. Ça me dépasse, ça va au-delà, hein, au-delà de tout ce que je peux penser. Ta grâce est infinie. Mais je te demande ta grâce sur eux. C'est pour ça que dans Matthieu, au chapitre 5 à 7, il dit plusieurs fois, bénissez, ne maudissez pas. Bénir, c'est savoir qu'il y a des grâces immenses que Dieu peut déverser. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des intercesseurs puissants, sans le savoir. Plus nous sommes humbles dans l'intercession, plus notre intercession est puissante. Elle est écoutée par le Seigneur. Ce n'est pas la puissance comme la dynamite, la bombe atomique, c'est une puissance de spirituelle. Il faut donc avoir confiance dans le ministère que Jésus a installé en moi. Le ministère, le service du Maître qu'il a installé en moi, il faut avoir confiance en ce ministère. Il faut avoir confiance. Nous ne sommes pas comme avant la conversion. Nous ne sommes pas comme avant certaines étapes de notre vie. Nous entrons progressivement toujours dans le ministère, dans le service de Christ. Et il y a aujourd'hui une multitude d'êtres affamés qui attendent l'exercice de votre ministère. Ministère d'approche, d'écoute, ministère de solitude comme le phare, ministère d'intercession, ministère de demande de grâce inespérée. Et ministère de quoi ? À un moment donné, il faut lâcher prise. C'est le Seigneur qui s'occupe de la personne, c'est plus moi. Après, je ne suis pas tout seul sur la terre, Dieu se sert de qui veut, partout. Dieu est grand, moi je reste petit. Les êtres affamés attendent de nous de rencontrer la parole vivante de Christ. Alors, prenons Amos chapitre 8, et je vais arrêter. Dans notre période d'aujourd'hui, combien il faut se faire attention de ne pas être des religieux remplis qui ne sont pas à l'écoute. La tendance religieuse en nous revient toujours, il faut faire attention. Moi je sais, ils ne savent pas. Quand ils sauront, etc., ça n'existe pas pour Dieu. Ils n'ont pas la foi. Et alors, Dieu a tellement de foi pour avoir envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Il a tellement de foi que quiconque croit en lui sera sauvé, ne périra point. Pourquoi moi je ferai un barrage à quelqu'un qui n'a pas la foi? Amos 8. Notre courage comme chrétien vient de cette relation spirituelle. Ne l'oubliez jamais. La vraie courage, la ténacité, dans n'importe quelle situation, même quand on serait torturé, on serait tabassé, le vrai courage, c'est dans cette relation-là. On ne sait pas nous ôter ça. Un jour, le jour qu'on vit comme ça, on ne sait pas rien nous ôter. Rien. Nous ne sommes pas perdants. Alors, Amos, chapitre 8.
Verset quoi ?
Eh bien, c'est au verset 11. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, c'est 8 siècles avant Jésus, où je répandrai la famine dans le pays, on aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, puis du nord à l'est, ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Dans ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes, dépériront de soif, ceux, etc. Donc, c'est le miracle d'Israël, c'est clair, maintenant, ils ont la Bible, ils ont l'Évangile. Ça, je l'ai vu, là, au petit endroit où j'avais vu 110 000 juifs qui vont chercher une Bible avec un Nouveau Testament, ou plusieurs. Donc, Israël est couvert de Bible avec le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'illusion, ça date depuis 2005. Ça fait 16 ans que... Donc, c'est qu'ils ont soif. Vraiment soif. Donc, ça s'est accompli. Et nous, ici, Israël a été tellement hostile à l'Évangile. Eh bien, et nous, ici, ils sont hostiles à l'Évangile. C'est pas pour ça qu'ils vont le rester hostiles. Tout d'un coup, crier à boire. À boire, c'est peut-être pas loin. Aujourd'hui, nous sommes serviteurs de la lumière de Christ, de son amour, de sa persévérance. Quel privilège, quelle noblesse. Bon dimanche.